VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Bion, midi à Libreville au Gabon. Bonjour à tous. L'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Urs Kohler, va rencontrer en février les quatre parties au conflit et convoquer en mars une nouvelle table ronde après la reprise d'un dialogue multilatéral en décembre, selon des diplomates lors des consultations du Conseil de sécurité de l'ONU. L'émissaire onusien n'a pas donné de date ni de lieu pour la prochaine rencontre de mars. Les discussions début décembre à Genève étaient les premières depuis 6 ans. Le bilan du naufrage de 2 embarcations de migrants mardi au large de Djibouti est passé à 28 morts, a annoncé aujourd'hui l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Le point avec Anne Alberson.
Aux 5 corps déjà retrouvés mardi soir viennent s'ajouter 23 corps récupérés ce matin, a indiqué la mission de l'OIM à Djibouti. Les gardes-côtes continuent les recherches. Un des survivants a estimé à 130 le nombre de personnes à bord du bateau sur lequel il se trouvait, mais n'a pu préciser le nombre de passagers dans la seconde embarcation. Le naufrage a eu lieu environ 30 minutes après que les bateaux surchargés eurent quitté par une mer agitée la localité de Godoria, située dans le nord-est de la côte de Djibouti. Leur destination était le Yémen, selon l'OIM. Situé face au Yémen ravagé par la guerre, près de la Somalie instable et de l'Éthiopie, Djibouti est devenu ces dernières années un point de transit pour les migrants en quête d'un travail dans la péninsule arabique. D'après l'OIM, un des trajets empruntés par les migrants pour rejoindre la péninsule arabique depuis Djibouti passe par le nord du Yémen. Ces traversées se sont souvent révélées périlleuses.
Au Zimbabwe, le pasteur et opposant Ivan Mawarire, arrêté pour subversion dans la foulée des récentes émeutes contre la hausse des prix du pétrole, a été remis en liberté mardi. Premier signe d'apaisement après 2 semaines d'une brutale répression. Porte-drapeau de la fronde antigouvernementale au Zimbabwe depuis 2016, Monsieur Mawarire a été arrêté le 16 janvier à son domicile d'Harare. Le président français Emmanuel Macron a écrit au nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, saluant la première transition pacifique en RDC. Les précisions d'Irénée Hermann-Numbo.
Votre élection à la présidence de la RDC marque la première transition pacifique de l'histoire de votre pays. Elle est le fruit de la volonté d'alternance et de changement que les Congolais ont exprimé avec force et dans le calme, a écrit Emmanuel Macron dans cette lettre lue à la télévision d'État en RDC. Je suis certain que vous saurez répondre à ces attentes dans un esprit de dialogue et de consensus, renchérit le locataire de l'Élysée. Il précise aussi que la France s'est toujours tenue aux côtés de la RDC pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale et pour l'appuyer sur son chemin vers la paix, la stabilité et l'émergence. Emmanuel Macron a par ailleurs estimé dans son courrier que la place de premier pays francophone au monde de la RDC était une opportunité unique pour resserrer les liens entre les deux pays. Il a aussi appelé à la réouverture de la maison Schengen, fermée au début de l'année 2018 et qui faisait office de consulat en délivrant aux Congolais des visas court séjour pour 17 pays de l'Union européenne plus la Norvège. Pourtant, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait émis des doutes le 20 janvier, peu après l'annonce de la victoire de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle.
Les autorités soudanaises ont annoncé la libération de toutes les personnes détenues dans le cadre du mouvement de contestation contre le président Béchi au Soudan, où de nouvelles manifestations ont toutefois été dispersées mardi. Le chef adjoint de l'état-major a de son côté souligné que les forces armées soudanaises, les SAF, étaient prêtes à faire face à toutes sortes de menaces dans une première prise de position au sein de l'institution militaire depuis le début du mouvement. Direction le Gabon, de gros efforts sont faits pour protéger la faune, mais des mesures sont prises simultanément pour protéger les agriculteurs contre les ravages que peuvent causer, par exemple, les éléphants. Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiang-Nze.
Dans le village d'Ongongwe, dans la province de l'Ogoué-Maritime, à l'est du Gabon, il ne reste plus grand-chose de l'exploitation de palmiers à huile du chef de village Jean-Gustave Rembentevo. Il est l'une des victimes en date des incursions des éléphants dans les plantations de la région.
Même les palmiers à huile, là, sont presque détruits. On ne peut pas intervenir. Parce que normalement, les éléphants, en ce moment, sont plus protégés que nous, les humains, parce qu'on ne peut rien faire.
Ici, les plaintes des agriculteurs n'aboutissent à rien. Le Gabon est signataire des conventions internationales en matière de protection de pachydermes.
Dans les villages, on vit de la pêche, on vit de la chasse. Mais depuis que les éléphants sont descendus dans notre village, dans le département, dans le canton. Ici, le village de Gongo est beaucoup touché par rapport aux autres.
Calqué sur le modèle kényan qui a déjà fait ses preuves, le Gabon expérimente depuis 3 ans le projet Philphone. Ce projet consiste à poser les clôtures électriques où les passages d'éléphants sont fréquents, comme dans ce village du nord-est du pays. Mais il n'a pas encore couvert le territoire national. Gustave Kouka est secrétaire exécutif adjoint de l'Agence nationale des parcs nationaux.
Il ne reste pas moins que tout le Gabon est impacté. C'est un processus qui ne fait que commencer. C'est un processus à long terme. Nous avons commencé certes par le Guévindo, nous allons enchaîner sur d'autres provinces, mais il faudrait que les populations soient patientes, notre équipe n'est pas assez étouffée, c'est un processus et nous viendrons au temps opportun vers ces localités pour pouvoir régler les barrières électriques.
En avril 2017, le Gabon avait accueilli une conférence internationale sur la réduction des conflits homme-faune. Le financement de ce projet, initiative de la Banque mondiale et du Programme mondial pour la faune, estimé à 5,5 milliards de francs CFA, est encore loin d'atteindre la promesse des fleurs. Libreville, Ismaël Obianzé pour La Voix de l'Amérique.
Nos infos sur voaafrique.com.
L'opposant vénézuélien Juan Guaido réclame aujourd'hui plus de sanctions de la part de l'Union européenne contre le régime du président socialiste Nicolas Maduro dans un entretien au quotidien allemand Bild. Idrissa Seydoudia.
Monsieur Guaido, 35 ans, qui laisse entendre qu'il est lui-même en danger, s'alarme aussi de la répression menée par le régime de monsieur Maduro. 700 personnes ont été arrêtées lors des manifestations rien qu'au cours des dernières semaines. Il y a 300 prisonniers politiques dans les prisons, dénonce-t-il. L'opposition vénézuélienne manifeste aujourd'hui pour convaincre l'armée de tourner le dos au président socialiste et reconnaître à sa place l'opposant Juan Guaido, porté par un soutien international croissant. L'Espagne, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni avaient donné samedi 8 jours à Nicolas Maduro pour convoquer des élections, faute de quoi il reconnaîtrait Juan Guaido comme président du Venezuela pour qu'il organise ce scrutin. Le président du Venezuela s'est dit prêt ce mercredi à organiser des législatives anticipées et à négocier avec l'opposition tout en rejetant dans une interview à l'agence publique russe RIA Novosti la tenue d'une nouvelle présidentielle.
Les responsables des services de renseignement américains mettent en garde contre ce qu'ils appellent un avenir encore plus périlleux pour les États-Unis où l'Amérique risque de voir son influence diminuer, ses alliés chanceler et ses principaux adversaires unir leurs forces pour entamer les normes qui ont pu assurer jusqu'ici la sécurité au pays et rendre le monde plus stable. Telle est l'évaluation pessimiste que le patron du renseignement, Dan Coats, et 5 de ses collègues ont exposé devant la commission du renseignement du Sénat. Les États-Unis ont accusé aujourd'hui la Chine et la Russie de ne pas dévoiler l'intégralité de leur programme nucléaire sur fond de menace de Washington de se retirer d'un traité de désarmement signé avec Moscou. Une haute responsable américaine a tenu ses propos en public lors d'une rencontre à Pékin entre les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU consacrés au désarmement et à la non-prolifération nucléaire. Andrea Thompson, sous-secrétaire d'État américaine chargée du contrôle des armements et des affaires de sécurité internationale, a indiqué qu'il y avait des résultats inégaux en matière de transparence dans le cadre du traité de non-prolifération nucléaire conclu en 1968. Stacey Abrams, ancienne candidate au poste de gouverneur de l'État de Géorgie, a été choisie mardi par les démocrates pour répondre au discours sur l'État de l'Union du président américain Donald Trump, une première pour une femme noire aux États-Unis. Donald Trump doit délivrer le 5 février ce discours annuel traditionnel au Congrès à Washington pour exposer son programme et sa vision de l'avenir avec une semaine de retard pour cause de shutdown. Et puis, un attentat à la grenade contre une mosquée a fait 2 morts aujourd'hui dans le sud des Philippines, 3 jours après un attentat meurtrier qui a fait, lui, 21 morts dans une cathédrale de Jolo. Cet attentat intervient 5 jours après l'annonce de l'approbation massive lors d'un référendum le 21 janvier de la création dans le sud de l'archipel de la région autonome de Bangsamoro dans le cadre du processus de paix avec l'insurrection musulmane. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi à tous et merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.